au féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes. C'est dans la presse. L'émission marocaine Kotbi Tonight sur Shada TV a été suspendue 3 semaines pour avoir laissé le chanteur Adil El Miloudi se vanter de frapper son épouse. Lors de sa déclaration en juin 2019, ce dernier avait déclenché des rires complices de l'acteur Samina Seri et de l'animateur Imad Kotbi. Au Maroc, cela est normal, chacun peut faire ce qu'il veut de sa femme, la frapper, la tuer, avait-il insisté. Kotbi lui avait alors dit, en plaisantant, que c'est interdit de frapper sa femme partout dans le monde. Ces propos constituent une apologie de la violence à l'égard de la femme, une incitation expresse à cette violence, souligne le communiqué de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Face à ce discours explicitement violent, l'animateur a adopté un ton badin et laissé toute latitude à l'invité de répéter ses assertions appelant à la violence à l'égard des femmes, indique le texte. La Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud a interdit le recours à la fessée ou autre punition corporelle contre les enfants, estimant que ces pratiques sont une violation de leurs droits. Elle a confirmé un jugement rendu en 2017 par un tribunal qui avait condamné un père de famille pour avoir frappé son fils de 13 ans. La vulnérabilité des enfants, leur droit à la dignité et à la protection de leurs intérêts, comme l'existence de moyens moins restrictifs pour assurer la discipline, rendent les châtiments modérés et raisonnables inconstitutionnels, ont tranché à l'unanimité les 9 juges constitutionnels. La Cour avait déjà interdit les châtiments corporels en prison en 1995 et dans les écoles en 2000. Dans un manifeste au nom des libertés individuelles, des centaines de Marocaines se sont déclarées hors la loi en proclamant avoir violé certaines lois. Nous violons des lois injustes, nous avons eu des relations sexuelles hors mariage, nous avons subi, pratiqué ou été complices d'un avortement, affirment les signataires. Le texte porte 490 signatures en référence à l'article 490 du Code pénal marocain qui punit de prison les relations sexuelles hors mariage. Sa publication le 23 septembre coïncide avec la 3e audience du procès de Hajar Raissouni, une journaliste détenue depuis fin août pour avortement illégal et débauche. « Mon corps m'appartient, il n'appartient ni à mon père, ni à mon mari, ni à mon entourage, ni aux yeux des hommes dans la rue et encore moins à l'État », souligne le manifeste.
Parole de femme.
De nombreuses conférences sur les technologies de l'information et de la communication sont organisées dans le monde. Certains pays africains y participent activement, notamment à travers le projet Smart Africa, une opportunité sans pareil pour les femmes et la jeunesse, misant sur un meilleur avenir. Pour la ministre de la coopération guinéenne Diéné Keïta, la promotion de la femme et la lutte contre le chômage des jeunes passent forcément par la technologie, les sciences et l'innovation. Je lui ai demandé ce qui était prévu pour eux en la matière.
Pour la Guinée, nous sommes relativement en avance sur les questions d'économie numérique et d'innovation technologique. Et nous tenons pour l'Afrique l'année prochaine d'ailleurs à la réunion de qu'on appelle Smart Africa. Et donc, on a présidé à cette réunion là-bas, au nom de toute l'Afrique, et signé des accords économiques avec le Japon pour contribuer à appuyer non seulement la Guinée, mais également les autres pays.
lors de ces rencontres? Est-ce que vous mettez l'accent sur le problème du chômage en Guinée en espérant que ces formes de collaboration avec l'étranger puissent apporter un quelconque soutien sur cette question?
Absolument, tout le temps. La jeunesse et les femmes, c'est véritablement les questions transversales et horizontales de toutes nos discussions, de toute la coopération guinéenne sous mon leadership. Cela ne souffre d'aucune discussion. C'est pour ça que j'ai commencé par la partie qui m'intéressait le plus, la résilience. C'est tellement important. Comment nous assurer en Guinée que les jeunes et les femmes soient au centre des discussions? Et ça commence par la sécurité simple, à savoir la santé, la nutrition. Mais à côté de cela, l'éducation. L'éducation est une problématique sérieuse en Guinée, soit l'éducation pour les jeunes, mais aussi le renforcement des capacités pour les femmes et les adolescents pour s'assurer qu'ils puissent répondre aux besoins du monde d'aujourd'hui.
Donc vous avez parlé tout à l'heure, notamment par rapport au Japon, des nouvelles technologies, des TIC, de l'innovation. Ça passera par là pour la population jeune de Guinée?
Ça passera par là, ça passera par les sciences, la technologie et l'innovation. Aujourd'hui, nous faisons de plus en plus de formations en ce qu'on appelle en coding, à l'accès aux technologies de l'information. On n'est pas obligé de passer par l'éducation classique pour pouvoir les utiliser, étant donné que c'est attractif à l'ensemble de la population, même la plus rurale, quand on sait que le téléphone mobile se retrouve partout sur le territoire national. Donc on profite de cela pour atteindre le maximum de jeunes et le maximum de femmes dans leur meilleur intérêt.
Un extrait d'une interview avec la ministre guinéenne de la coopération, Diéné Keïta, qui a participé à la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique et qui devrait se rendre au prochain sommet Russie-Afrique à Sotchi. Direction la capitale kényane, Nairobi, où un nouveau club de moto composé de femmes a vu le jour. L'objectif n'est pas seulement de développer leur capacité à vaincre la circulation infernale dans la métropole, c'est aussi un moyen pour elles de défier les stéréotypes. Écoutons le ronflement des deux roues dans un reportage de Radia Adam, relaté par Arzuma Compaoré.
Il est pratiquement impossible de repérer une femme au guidon de Buda Buda ou autre moto qui sillonne les rues encombrées de Nairobi. Les dames en cuir de Piki Dada brisent l'image stéréotypée de la grande cité.
Les motos, c'est quelque chose de spécial. Le fait qu'elles ne sont pas bloquées par les embouteillages, l'excitation qu'elles procurent, l'adrénaline, cela vous donne juste une impression de « waouh, c'est vraiment spécial ». Ce n'est pas quatre, mais deux roues.
Patience Meta, agricultrice et administratrice, a ouvert le club en juin 2019. Très vite, son club s'est agrandi. 40 femmes en font aujourd'hui partie.
Nous aimons nous motiver les unes les autres et rouler ensemble. C'est la seule façon de se soutenir mutuellement. Nous nous retrouvons, parlons ensemble, vivons ensemble et roulons ensemble.
Une chose est sûre, conduire à moto à Nairobi offre plusieurs avantages. Les taxes et frais de transport sont minimes et bien sûr, sur deux roues, on arrive plus vite à destination. Le nombre des adeptes de la moto a connu une poussée fulgurante. Les motards sont passés de près de 13 300 en 2007 à près de 191 000 une décennie plus tard. Selon Meta, les distributeurs accordent plus d'attention aux femmes et leur proposent des motos plus petites et plus légères, comme sa moto fabriquée en laine, Hero Charisma. Mais tout n'est pas rose dans l'univers des deux roues. Demari Mana est membre de Piki Dada.
Nous remarquons que dans certaines zones où les motos ne sont pas très nombreuses, les gens ne sont pas très prudents. Cela vous oblige à faire toutes sortes de manœuvres afin d'éviter les personnes qui se mettent sur notre voie.
L'autre défi, les mentalités.
Certains pensent que c'est juste un sport d'homme. Ils ne s'imaginent pas que les femmes aussi peuvent le faire. Alors nous nous affichons pour qu'on nous voit, qu'on nous parle, ça nous encourage.
Piki Dada encourage les femmes à rejoindre le club. Le principal argument, la moto, c'est la liberté.
Les auteurs de viols en Sierra Leone pourront désormais être condamnés à la prison à vie. Selon un texte adopté le 19 septembre 2019 par le Parlement, prévoyant des condamnations de 15 ans à la prison à vie. Ces crimes étaient jusqu'alors punis de 5 à 15 ans de prison. En février, le président Julius Madabio était allé jusqu'à décréter une urgence nationale après que les cas de violences sexuelles eurent doublé en un an. Le Parlement avait révoqué en juin cet état d'urgence difficilement applicable. Le nombre d'affaires débouchant sur des condamnations en Sierra Leone est dérisoire en raison de la pression sociale et du coût des procédures.
Si jeunesse pouvait.
Au Mali, des jeunes de la région de Mopti ont participé à une rencontre au gouvernorat initiée par le Centre pour le dialogue humanitaire afin de trouver des solutions sur le conflit qui sévit dans certaines zones. Après les discussions, ils ont ébauché des pistes visant à s'engager et s'impliquer davantage pour la paix et la cohésion sociale. Le point avec Mamadou Bokoum qui a tendu son micro à ces jeunes volontaires de la paix.
Ce face-à-face entre les jeunes de Koro, Bankas, Bandiagara et Douanza a démarré dans une atmosphère de méfiance. Mais au finish, tous ont eu une convergence d'idées, se parler, se comprendre, puis se donner les mains pour une large sensibilisation de leurs différentes communautés. Certains parmi eux nous parlent de l'importance de cette rencontre.
Elle a beaucoup d'importance. Ça permet à la jeunesse de prendre conscience de ce qui se passe et de participer à la gestion de la crise. C'est elle-même qui peut refuser, c'est elle-même qui peut résoudre aussi.
L'importance de cet atelier est énorme, dans la mesure où elle nous a conduit quand même à comprendre comment faire pour sortir de la crise. Il faut quand même éviter la haine entre nous. Sensibiliser surtout à ce qu'on ait confiance l'un à l'autre.
Les jeunes de Dougon et Pil, nous sommes tous retrouvés tous ici. Là, c'est déjà une grande importance. Et les jeunes de Pil aussi et Dougon, on va parler, on va discuter pour qu'on puisse vraiment trouver une solution vraiment à cette crise-là. Parce que nous, on a vu que vraiment personne ne va gagner quelque chose dans cette crise.
Déjà, la couche juvénile a tracé des pistes de solutions, notamment sécuriser les différents axes routiers, organiser des dialogues entre les groupes d'autodéfense, contrôler les réseaux sociaux, organiser les retours des déplacés, puis lutter contre l'amalgame. Ce dernier point constitue l'une des principales difficultés dans les différentes zones. Abdou Sekou Ologem est chef de projet au Centre pour le dialogue humanitaire.
La question des amalgames était au cœur des discussions. Et ils ont dit que le problème aujourd'hui, c'est autour de l'amalgame. Et qu'il y a un besoin de travailler autour de cette problématique. Parce que au juste, l'amalgame est entretenu par des suspicions liées au fait que les gens ne se parlent pas. S'ils ont l'occasion de se parler, d'être ensemble, de se rapprocher, sans doute, les amalgames vont être levés. Et ils sont convaincus que c'est ce qui a lieu de faire et ils se sont engagés en faveur de cela. Et nous allons accompagner, étant une maison de médiation, notre travail, c'est d'accompagner, c'est de faire de sorte qu'ils soient vraiment des acteurs qui vont renforcer les différents processus. Donc on va avec eux porter cela.
L'accompagnement des autorités régionales ne fera pas défaut à rassurer les gouverneurs. Le général de brigade Abdoulaye Cissé s'est dit comblé pour cette initiative.
C'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie, parce que j'ai dit tout le temps que la paix reviendra d'abord avec les jeunes. Quand les jeunes sont d'accord qu'il y ait la paix entre eux, les parents sont obligés de les suivre. Et ce sont les jeunes qui sont encore nombreux en Brousse aujourd'hui pour se donner à des tueries, pour se donner à des actes qui ne sont pas acceptés par les lois du Mali. Donc si les jeunes de toutes les sensibilités se réunissent aujourd'hui pour parler de paix, ma satisfaction ne peut être que totale.
Les jeunes ont donc déclenché le processus. Reste maintenant l'implication de tous et de chacun pour que la paix revienne définitivement dans la région. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
Depuis 2017, plus de 14 000 jeunes Nigérians sont rentrés de Libye dans le cadre d'un programme de rapatriement volontaire des Nations Unies. Mais une fois de retour au Nigeria, la vie est encore plus difficile qu'auparavant. Beaucoup se retrouvent endettés, en quête de travail, brisés par le traitement qu'ils ont subi aux mains des trafiquants. Arzuma Compaoré nous en dit plus.
Il fut un temps où Gloria rêvait d'une carrière internationale dans la mode. Mais depuis son retour au Nigeria, à Benin City, elle travaille comme couturière dans un atelier de la place pour un salaire mensuel de 40 dollars. Comme beaucoup de Nigérians qui ont tenté de fuir la pauvreté, c'est en Libye que le voyage pour l'Europe de Gloria a connu une interruption précoce. Après avoir vécu l'enfer pendant près d'un an bloquée en Libye, elle est la seule d'un groupe de 4 amis à avoir été rapatriée au Nigeria. Les 3 autres sont mortes pendant le voyage.
Mon père croyait simplement que si je voyageais, je pourrais aider la famille. À mon retour, c'est seulement à lui que j'ai raconté ce que j'ai vécu. Je ne l'ai dit à personne d'autre.
L'État d'Edo, qui a dû accueillir à lui tout seul 4 800 des 14 000 rapatriés depuis 2017, a mis en place un rare programme de soutien pour ces populations extrêmement vulnérables. Daré est la responsable du programme de formation professionnelle de l'État d'Edo.
C'est une priorité pour nous de donner aux rapatriés et aux jeunes, dont certains migrants, des emplois et des opportunités qui les intéressent. Ce qu'ils aimeraient faire, mais pas seulement cela. Nous ne voulons pas seulement les embaucher, nous voulons aussi leur offrir des carrières.
Selon le Bureau national des statistiques, 55% des moins de 35 ans n'avaient pas d'emploi au Nigeria fin 2018. Tike avait un petit boulot avant de tenter de gagner l'Europe en février 2017. 10 mois plus tard, il était de retour en Libye. Il vit aujourd'hui dans son minuscule appartement avec sa petite amie et leur fille de 4 mois.
Quand j'étais en Libye, je me suis dit, il faut survivre. Et c'était difficile. J'ai traversé beaucoup de choses. Mais si j'ai survécu 4 jours dans le désert sans manger, alors je pourrais jeûner 1 mois. Je suis mieux ici.
Tike est rentré physiquement, mais confie que son esprit est resté longtemps encore là-haut, en proie à la paranoïa et au trauma. Plus de 60 000 Nigérians sont toujours bloqués en Libye, pour la plupart dans des centres de détention ou entre les mains de trafiquants et milices.
Oui, et si la jeunesse pouvait.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé un plan d'urgence contre les violences faites aux femmes, qui inclut un renforcement de l'arsenal répressif. Les crimes contre les femmes et les enfants seront punis de peines minimales plus sévères et les coupables ne pourront pas bénéficier de liberté conditionnelle, a-t-il précisé, ajoutant que les peines de prison à perpétuité seraient désormais effectivement accomplies. Le gouvernement va débloquer 1,1 milliard de randes sur 6 mois, soit environ 75 millions de dollars, et un fonds ouvert aux entreprises sera créé pour des actions de prévention contre les violences sexistes et sexuelles. Rappelons que plus de 30 femmes ont été tuées par leur conjoint au mois d'août en Afrique du Sud, où l'on enregistre une moyenne de 110 viols par jour.
Entre parenthèses.
Les accouchements par césarienne font polémique au Maroc, qui affiche un taux très élevé dans les hôpitaux privés. Selon la mutuelle des fonctionnaires, moins de 4 accouchements sur 10 ont lieu par voie basse, alors que l'OMS préconise un taux de césarienne n'excédant pas 15%. Voici un reportage d'Elam Le Cœur.
Bonjour. Elisa est née il y a 17 mois dans le nord du Maroc. Asna a accouché par césarienne dans une clinique privée, comme 66% des femmes enceintes. Pourtant, le travail avait bien commencé. Son gynécologue a préféré venir à la dernière minute. Un comportement suspect d'après cette jeune maman.
J'ai eu ce sentiment, j'ai eu ce sentiment, je n'ai pas compris. C'est comme si j'avais choix. On ne l'a pas dit comme ça directement, mais c'était le sentiment que j'ai eu.
Omar, chauffeur de taxi à Tanger, est plus catégorique. Pour ce père de famille, la gynécologue obstétricienne a piégé sa femme Nora pour gagner de l'argent.
On est allé à l'hôpital public, on a vu un médecin. C'était un mercredi. Il nous a dit, vous avez encore le temps pour l'accouchement. Le vendredi suivant, nous sommes allés voir notre gynécologue dans le secteur privé. Elle nous a dit, c'est vendredi, donc le week-end arrive. Et si vous voulez aller à la clinique maintenant, prenez votre sac et partez à la clinique. Si vous voulez laisser jusqu'à lundi, vous serez responsable de ce qui pourrait arriver au bébé. il pourrait mourir. Vous savez, à l'hôpital public, on donne entre 2000 et 3000 dirhams pour une césarienne. Dans le secteur privé, c'est 10 000 dirhams, voire plus.
Un accouchement par césarienne coûte près de 4 fois plus cher qu'un accouchement par voie basse au Maroc. La mutuelle des fonctionnaires a menacé de ne plus rembourser intégralement les frais de l'acte chirurgical, à moins qu'il ne soit médicalement justifié. Mais il est difficile de prouver ces pratiques abusives. Le gouvernement marocain promet en tout cas de mettre fin au bras de fer entre la mutuelle et les gynécologues du secteur privé. Accouchement par voie basse ou césarienne, un rapport détaillé sera publié bientôt dans le pays.
Pour remédier aux coupures d'électricité au Bénin, la seule alternative, selon certains experts, est de miser sur les énergies renouvelables. Le Fonds de développement Millennium Challenge Account, à travers un financement américain, s'active sur le terrain pour une électrification hors réseau des ménages qui le désirent. Ginette Fleuradandé a rencontré des femmes qui installent des panneaux solaires dans les villages.
Au Bénin, les populations peinent toujours à se connecter comme il le faut au réseau conventionnel de fourniture d'électricité. Conséquence, beaucoup continuent de se plaindre de ces coupures intempestives qui peuvent durer 12 heures par jour.
Les conséquences sont nombreuses, vraiment. Et fâcheuses aussi, surtout parce que dès que les clients arrivent, ils veulent prendre du frais. Vous leur présentez de la boisson chaude, ils ne prennent pas, ils s'en vont. Et cela me fait une mévente totale.
Le Bénin, à l'instar de bien de pays de la sous-région, dispose d'un climat favorable à la promotion des énergies renouvelables. Pour Placide Clédio, climatologue, enseignant-chercheur à l'Université du Bénin, les énergies renouvelables restent la seule chance pour le Bénin de vaincre la crise énergétique qui résiste à toute stratégie.
Notre politique énergétique doit être accentuée sur les énergies renouvelables. Et c'est la chance pour l'Afrique aujourd'hui d'être expert maintenant dans les énergies renouvelables pour dépasser les autres. Dans le soleil et à partir de nos déchets, on peut produire maintenant le gaz. Nous avons aussi l'énergie éolienne qu'on peut vraiment exploiter.
Plusieurs initiatives publiques et privées d'électrification au réseau ont été mises en place pour faciliter l'accès à l'énergie électrique, mais elles se heurtent continuellement aux questions d'exploitation et de durabilité. Marcel Flan, chef du projet énergie décentralisée au niveau du Millennium Challenge Account, explique l'opportunité qu'offre le peuple américain au Bénin pour s'affranchir de la dépendance énergétique.
La première activité, c'est de mettre en place un cadre réglementaire qui puisse inciter le secteur privé et les organismes internationaux à venir dans le marché de l'électrification hors réseau au Bénin. La deuxième activité, qui est la facilité d'énergie propre hors réseau, vient pour mobiliser des ressources additionnelles en appelant le secteur privé pour électrifier les zones qui ne sont pas accessibles par le réseau national de la SB2E.
Les premières installations solaires au Bénin remontent à plus de 20 ans. Plus besoin de sensibiliser les populations sur la nécessité de recourir à ce type d'électrification. D'ailleurs, le secteur engendre déjà assez de personnes formées pour répondre aux besoins du marché à travers l'installation de panneaux solaires photovoltaïques à usage domestique. C'est le cas de ces jeunes femmes déscolarisées, femmes au foyer et vivant dans le nord du Bénin et qui, avec le soutien des Nations Unies, ont bénéficié d'une formation qui fait d'elles des spécialistes en matière d'installation de panneaux solaires et autres. Ismène Raminezoumenou, présidente de l'ONG Fitting Rinda.
Elles ont négocié des contrats auprès de ménages non électrifiés. Elles ont déjà installé des systèmes solaires domestiques. Au cours de leurs travaux pratiques, les filles ont eu à dépanner tous les lampadaires de la ville de Parakou. Et elles ont eu également à démarcher des clients qui sont des ménages non électrifiés où elles ont installé aussi des kits solaires de 150 watts crête. Donc, je peux dire déjà que ces filles sont déjà totalement opérationnelles.
De Cotonou, Ginette Fleuradandé pour VOA Afrique.
Chères auditrices, chers auditeurs, le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, juste après les nouvelles. Sur notre site internet, visitez aussi voaafrique.com/LMF pour consulter nos articles, vidéos, interviews et les autres éditions déjà parues. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête!